BFM Radio. BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange, Dominique Rizet.
Nous sommes le dimanche 11 mai, il est 13h. Bienvenue dans Affaire suivante numéro 296. Au sommaire, Dominique, où se trouve Eva ? Eva, c'est cette adolescente niçoise de 16 ans. Elle a disparu le 1er mai dernier. Ses parents craignent qu'elle se trouve à Toulon aux mains d'un réseau de proxénétisme. Et les pistes, les profils, les dernières informations, évidemment, c'est dans Affaire suivante.
Absolument. Affaire suivante qui revient aujourd'hui sur la mort d'Agathe Hilleret, portée disparue pendant plusieurs semaines. La joggeuse a été retrouvée dimanche dernier par un promeneur. La zone n'avait pas été fouillée, Ronald, par les gendarmes. Son autopsie n'a pas encore permis de déterminer les causes de sa mort, ni la date de sa mort. Que va-t-il se passer désormais ? Réponse dans un instant.
L'affaire Pellicot, les viols de Mazan, aurait-elle pu être évitée ? Dans son livre Choc, Fétiche 45, les autres vies de Dominique Pellicot, Laurent Valdiguier met au jour une série de dysfonctionnements judiciaires qui prouvent que le calvaire de Gisèle Pellicot aurait dû être évité. Laurent Valdiguier sera notre invité.
Oui, restez avec nous, affaire suivante, c'est tout de suite.
Voilà donc pour le programme de cette émission. Bonjour Dominique.
Bonjour Ronald.
Fugue ou victime d'un réseau de prostitution, c'est la question qui hante les parents d'Eva et les enquêteurs. Eva, c'est cette adolescente de 16 ans qui a déjà fugué à plusieurs reprises. Elle a disparu depuis le 1er mai à Nice et son téléphone renvoie depuis à un site d'escorte girl. Les derniers éléments, c'est avec Elisa Fralin.
Eva a disparu en plein centre de Nice le 1er mai dernier. La jeune fille a quitté son domicile, quartier Riquet, en milieu de matinée. Depuis, ses parents n'ont aucune nouvelle. Le téléphone de leur fille est éteint, ses réseaux sociaux coupés.
Si par chance ma fille entend mon message, qu'elle sache que j'attends et que j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de la prendre dans mes bras et de la revoir, c'est tout.
À bientôt 17 ans, Eva, 1m80, les yeux bleu-gris, n'allait plus au lycée depuis septembre dernier. Fugue, mauvaise rencontre, sa mère pense qu'elle a pu être influencée sur les réseaux sociaux.
Quand on est jeune comme ça, on n'a pas toutes les armes, on a un côté, on est un peu naïf aussi et on n'imagine pas en fait que le mal qu'il peut y avoir, le mal qu'on peut potentiellement nous vouloir.
L'enquête ouverte pour disparition inquiétante de mineurs et soustraction de mineurs a été confiée à la police judiciaire de Nice. De son côté, la famille, aidée par l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, espère recueillir des témoignages utiles pour retrouver Eva.
Pour en parler, Dominique, nous accueillons sur le plateau d'affaires suivantes Johanna Rosenblum. Bonjour Johanna.
Bonjour Ronald.
Psychologue clinicienne consultante BFM TV, Boris Karlamov. Bonjour Boris.
Bonjour Ronald.
Journaliste police-justice BFM TV. Et pour débuter, Dominique, nous allons poser quelques questions à Karine Rago. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'ARDP, l'assistance et recherche de personnes disparues. Dossier compliqué, profil compliqué. Un peu plus d'une dizaine de jours après, 10 jours après la disparition d'Eva, quelles sont les dernières informations que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui ?
Alors, juste une petite précision, je suis vice-présidente de la RPD Région Sud, c'est important de le préciser.
Pardon.
Donc, ceci mis à part, oui, c'est un dossier que nous avons depuis, en notre possession depuis le 6 mai exactement, puisque la maman nous a saisis le 6 mai. Nous en sommes au début de l'enquête et il est évident que toutes ces jeunes filles qui disparaissent, je ne peux pas toujours les qualifier de fugue parce que bon, il peut y avoir des mal-être, il peut y avoir des problèmes, mais les réseaux sociaux de nos jours sont un moyen de les attraper dans leur filet. Elles se font en général draguer par des jeunes mineurs, qui sont pour la plupart du temps mineurs, que nous appelons, nous, dans notre jargon, des lover boys, qui sont ceux qui les prennent dans leur raie et qui arrivent justement à leur promettre monts et merveilles. S'ensuit en fait un petit peu un lavage de cerveau concernant l'isolement de ces jeunes filles qu'on essaye d'isoler de leur famille, de leurs amis, et en leur promettant donc une vie super dans leur langage de jeunes. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Eva. Eva est une jeune fille qui était jusqu'à il y a très peu de temps un rayon de soleil. J'ai des témoignages où tout le monde me dit que c'était une jeune fille extraordinaire, brillante, intelligente, avec énormément de joie de vivre. Et elle a changé du jour où elle a commencé à fréquenter certains réseaux sociaux.
Madame Rabou.
Moi, une question à vous poser sur l'association. Oui. En fait, comment se fait-il, bon, des jeunes filles malheureusement qui disparaissent, il y en a beaucoup, comment se fait-il que là, on vient vers vous? Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait qu'on espère, qu'Eva est toujours en vie, bien sûr, mais qu'on vient vers vous? Est-ce que c'est la police qui donne les coordonnées de votre association à la maman d'Eva? Et qu'est-ce que va faire l'association? Pourquoi est-ce que cette affaire est différente des autres? Cette disparition différente des autres?
Alors, si vous voulez, chaque disparition est particulière. Alors, notre association, le premier mot, comme vous pouvez le constater, c'est assistance. Mmh. Nous avons le temps que, malheureusement, ni la police, ni la gendarmerie n'a. Et ça, je tiens à préciser, ils font un travail colossal. Il ne faut jamais oublier que ces gens sont corvéables à merci. Nous, par contre, nous sommes bénévoles, nous sommes pratiquement 900 à l'association sur toute la France, et nous avons le temps de consacrer notre énergie aux parents. Nous sommes là pour les soutenir moralement, pour faire des recherches. Nous avons des gens de chez nous qui arrivent à s'infiltrer sur des réseaux sociaux, qui arrivent à prendre contact avec des jeunes. C'est tout un travail. On ne peut pas mettre une équipe de gendarmerie derrière les 60 ou 70 000 disparitions par an. Ça, il faut en être conscient. Donc, notre association n'a absolument pas l'intention de marcher sur les plates-bandes de quiconque, mais nous sommes un soutien moral pour les familles. Moi, la maman d'Eva, je l'ai tous les jours au téléphone. Je l'appelle tous les jours, je prends de ses nouvelles. On parle de tout et de rien. On parle de la disparition de sa fille. Elle me donne des indices. Ça, c'est très important. C'est notre mission première. C'est l'assistance et le soutien moral aux personnes. Après, nous enquêtons, mais dans les limites, bien sûr, de la légalité et surtout dans les limites du raisonnable. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des bénévoles.
C'est la question que j'allais vous poser. Eva disparaît le 1er mai. Vous êtes contactée le 6 mai, et depuis le 6 mai, ce qui est assez récent, vous êtes dans la fois dans cette double mission, le soutien à la famille et aussi un travail d'enquête. Comment ce travail d'enquête se fait-il? Parce que vous le disiez, vous n'êtes pas des professionnels. Il y a la légalité, il y a vos limites aussi. Comment ça s'opère très concrètement?
Alors concrètement, quand on monte une équipe d'enquête pour un dossier, nous avons un enquêteur principal, en l'occurrence, il se trouve que c'est moi sur ce dossier, qui est la seule personne qui est en contact avec la famille, pour éviter que les personnes aient à répéter 10 fois les mêmes choses. Ensuite, nous constituons une équipe par zone géographique, donc du lieu de disparition. En l'occurrence, là, nous avons 3 personnes sur la région de Toulon. Nous avons 2 personnes sur la région des Alpes-Maritimes et 1 personne dans les Bouches-du-Rhône. S'il faut, nous augmentons la capacité de l'équipe en fonction des indices que nous récupérons sur les réseaux sociaux, sur Internet, des indices que peut nous donner la maman. Tout ce que nous donne la famille, même l'indice le plus insignifiant, peut nous être utile. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, j'ai demandé hier à la maman d'Eva de me transmettre une photo des mains de sa fille, parce que les mains, ce sont des choses très particulières. Et cette photo, nous créons des groupes d'enquête sur WhatsApp et nous échangeons en temps et en heure toutes les informations que nous pouvons trouver.
Karine Rago, vous restez avec nous. On va se tourner vers Johanna Rosenblum et Boris Karlamov sur le plateau et on revient vers vous pour continuer nos échanges. Boris, tout débute donc le 1er mai, 11h15, place Garibaldi à Nice.
Oui, absolument. Non loin de cette place niçoise, Eva éteint son téléphone. On ignore si c'est de manière volontaire ou involontaire. Quoi qu'il en soit, eh bien, elle disparaît. Elle ne donne aucun signe de vie à ses parents, à sa maman, Caroline. Elle désactive également ses réseaux sociaux. Sa maman prévient les forces de l'ordre. Elle dépose une plainte puisqu'elle a un début de conviction. Aujourd'hui, sa mère, Eva, c'est que sa fille aurait pu tomber dans un réseau de personnes mal intentionnées, un réseau de prostitution. On sait qu'Eva, elle a déjà réalisé des fugues par le passé. Elle avait parfois des échanges sur les réseaux sociaux avec certains garçons. Elle fréquentait un garçon pour le moins qui avait, on va dire, mauvaise réputation. Bref, un faisceau d'éléments, un faisceau d'indices qui amène sa maman aujourd'hui à penser, eh bien, qu'elle pourrait se trouver dans des mains de personnes mal intentionnées. Quoi qu'il en soit, le parquet de Nice, il a ouvert une enquête pour disparition inquiétante de mineurs ainsi que soustraction de mineurs, ce qui va dans le sens de la plainte de la maman. Sa maman aujourd'hui, eh bien, elle remue ciel et terre pour tenter de retrouver sa fille. Il y a eu un appel à témoins qui a été lancé sur les réseaux sociaux. À noter que la police nationale, la DIPN des Alpes-Maritimes, n'a pas fait le choix choix de son côté de diffuser un appel à témoins. C'est une enquête qui est extrêmement sensible, puisque tout d'abord il s'agit d'une mineure, et qu'avec ses suspicions de réseau de prostitution, forcément il est très délicat pour les enquêteurs d'avancer et de donner des éléments. Donc le parquet de Nice, pour l'instant, ne communique pas ou peu dans cette affaire. Il nous indique juste que les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver l'adolescente.
Est-ce qu'à ce stade, Boris, on sait si ce garçon a été identifié? Est-ce qu'il était retrouvé? Est-ce qu'il était entendu par la police? Si on remonte à ce garçon, on doit remonter à Eva.
Alors, on sait que pour l'instant, il y a eu des auditions qui ont été menées. Est-ce que ce garçon a été auditionné par les policiers? Ça, on l'ignore à notre connaissance. Mais il y a tout un travail d'investigation, d'audition, de témoignage, de bornage téléphonique. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace d'elle sur les réseaux sociaux, plus aucun bornage téléphonique. C'est ce qui inquiète particulièrement sa maman aujourd'hui.
Karine Rago, est-ce que vous avez une réponse à cette question extrêmement précise de Dominique? Est-ce qu'on en sait plus sur ce jeune homme? Est-ce qu'il a été identifié? Si oui, est-ce qu'il a été interrogé?
Alors, je vais apporter deux précisions à ce que vous venez de dire. Eva aurait été vue à 11h15, place Garibaldi à Nice. Son téléphone aurait borné à 12h à Toulon. Il est impossible matériellement d'être à Nice à 11h15 et à Toulon à 12h. Ça, c'est le premier élément que nous avons relevé. Deuxième chose, oui, il y a eu des auditions dans le cadre de cette enquête, mais moi, je suis tenue au même devoir de réserve que la gendarmerie ou la police nationale. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, vous donner plus d'éléments pour ne pas perturber l'enquête.
Johanna, on parle également, il faut rappeler, on parle d'une jeune mineure, 16 ans, avec un profil un peu particulier. Elle est en voie de déscolarisation depuis ses 14 ans, complètement déscolarisée depuis septembre, et elle a déjà fugué. C'est aussi ce qui fait qu'il y a des interrogations et beaucoup de doutes. Ça veut dire quoi de la psyché d'une si jeune adolescente, visiblement si fragile?
C'est ce qui fait qu'elle est vulnérable, notamment sur les réseaux sociaux, et Madame Rago l'explique très bien, et en cela, elle doit être extrêmement précieuse auprès de la famille, parce qu'elle fait de la pédagogie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les réseaux de proxénétisme ou de prostitution, il y a des experts en recrutement. On fait ce qu'on appelle, alors parfois c'est une personne, parfois c'est plusieurs personnes qui arrivent à recruter une jeune fille ou un jeune garçon pour l'intégrer à un réseau de prostitution. Il va y avoir ce qu'on appelle du phishing, alors c'est des mots anglo-saxons.
C'est l'hameçonnage.
Exactement, c'est quelqu'un qui va repérer sur les réseaux sociaux. Alors voilà, si une jeune fille, alors qu'elle devrait être en cours, poste sur les réseaux sociaux, on sait qu'elle est déscolarisée, elle va parler de son mal-être, elle va parler aussi de ce qu'elle aime, c'est ce qui permet de l'hameçonner, de la repérer. Ensuite, il y a l'étape de grooming, c'est-à-dire c'est des jeunes filles qui vont être contactées sur les réseaux sociaux, et en face d'elles, elles vont avoir un expert en manipulation, en emprise, qui va réussir à se faire passer pour une personne providentielle, qui va pouvoir l'aider dans toutes les problématiques qu'elle rencontre avec ses parents, les problématiques adolescentes, relationnelles, scolaires et ainsi de suite. Et parfois, il succède à tout cela une période de chantage. Par exemple, s'ils sont devenus plus proches, si l'homme a réussi à se faire aimer de cette jeune fille et qu'il détient par exemple des photos, il va faire des chantages. Si tu veux récupérer tes photos, moi j'ai besoin que tu me rendes ce service, ou j'ai besoin que tu travailles pour moi. Et commence alors ce piège qui se referme sur les jeunes filles qui, pour ne pas être fragilisées davantage, pour ne pas alerter la famille et aussi parfois par honte, tombe dans ces réseaux criminels.
Et comment dire, ce genre de personnage, elle tombe amoureuse de lui, il lui demande de faire des choses pour elle. C'est quelqu'un qui travaille pour des réseaux, ou c'est quelqu'un qui est seul?
C'est souvent des réseaux très bien organisés, et c'est vrai que c'est difficile parfois de repérer un responsable, puisque comme je vous le disais, c'est souvent plusieurs personnes, comme un maillage de recrutement qui permet de trouver la jeune fille suffisamment fragile, qui manque parfois de libre arbitre, d'esprit critique, parce qu'elle est jeune, et qu'elle est en plein développement, parce qu'elle rencontre des difficultés. Donc c'est très difficile à comprendre, et en face, on a vraiment des experts extrêmement forts, des fins psychologues, des grands manipulateurs, qui arrivent à prendre précisément la jeune fille par l'angle qui lui permet de se sentir écoutée, comprise, alors qu'elle traverse des difficultés.
On parle de quelque chose de réconfortant, d'amical, à quelque chose de menaçant. C'est-à-dire qu'il y a ce chemin-là qui se fait.
Mais c'est toute la problématique de l'emprise. C'est du chaud et du froid, c'est une claque et une récompense. C'est si tu ne me donnes pas une photo de toi, un nude, je vais diffuser sur les réseaux sociaux.
Et
une photo nue. De la jeune fille, on ne sait pas ce qui a permis à son recruteur, si vous voulez, de faire en sorte qu'elle ne puisse plus dire non et qu'elle y aille. parce que sa mère dit qu'elle était très proche et très fusionnelle de sa fille. Donc, il y a vraiment un glissement qui a été fait de sa famille, dont elle était proche, à cet homme ou ces hommes qui lui font croire être les hommes providentiels qui peuvent, a priori, lui apporter beaucoup de choses.
Boris, qui travaille actuellement sur cette enquête? Quels sont les services? Quelles sont les priorités? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait de la discrétion un peu générale dans ce dossier.
Oui, la police judiciaire niçoise, hein, qui est en collaboration avec des polices judiciaires, notamment du côté de Toulon, une coopération entre ces deux commissariats. Il y a un gros travail qui est fait sur l'environnement, tout d'abord numérique, de la jeune fille, puisque visiblement tout part des réseaux sociaux selon sa maman. Donc on va essayer d'identifier des messages, identifier des interlocuteurs potentiels donc entre cette jeune adolescente et donc des garçons sur les réseaux sociaux, et puis également sur le bornage téléphonique, je le disais, puisque son téléphone portable a arrêté de border, Madame Rago le racontait, à une certaine heure, donc non loin de la place Garibaldi à Nice. Donc c'est tout d'abord l'environnement numérique, dans un second temps les auditions de son entourage proche, et puis surtout l'appel à témoins. Les enquêteurs, ils espèrent aujourd'hui bien qu'il y ait une personne qui un jour va passer un coup de fil en disant « je pense avoir vu Eva dans telle ou telle commune, dans ce département des Alpes-Maritimes ». Donc voilà, d'où l'importance aujourd'hui de diffuser sa photo au plus large, et c'est en ce sens et bien que l'avocate des parents d'Eva, maître Marie-Pierre Lazare, souhaite qu'on diffuse le plus largement possible ces photos. C'est pour que quelqu'un puisse se dire, eh bien, écoutez, cette jeune fille, j'ai pu la croiser hier matin, j'ai pu la voir hier soir à Marseille, à Toulon, à Nice ou encore à Cannes, et que cette personne-là puisse prévenir les enquêteurs. Donc voilà, il y a un gros travail de témoignage qui va être réalisé.
Oui, et puis des parents qui se manifestent, parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Bon, pardon, mon. On va parler tout à l'heure de l'histoire d'Agathe Hilleret, cette joggeuse qui a disparu. Les parents n'ont pas voulu se manifester, ni diffuser de photos, ni donner de photos à la presse. Là, on est dans autre chose.
Oui, et c'est les parents communiquent. Oui, je pense que c'est aussi le rôle et le soutien que va apporter Madame Rago et les autres associations aidantes. C'est que les parents, on a besoin d'eux. Donc, il faut aussi qu'ils tiennent. Donc, il faut pouvoir... Elle les appelle tous les jours. C'est des moments où ils seront pleins d'espoir, des moments où ils seront envahis par le désarroi. On a besoin qu'ils communiquent. On a besoin qu'ils puissent peut-être par moment témoigner à leur fille leur amour, leur attente, la rassurer aussi, faire preuve de réassurance pour qu'elle sache qu'elle ne sera pas jugée, qu'elle peut rentrer à tout moment. Et pour cela, il faut que les parents soient présents et puissent tenir psychologiquement.
Madame Rago, vous êtes toujours avec nous. Vous aviez, vous m'infirmez évidemment si j'ai tort, mais le sentiment d'une certitude sur ce qui est arrivé à Eva. Est-ce que cette certitude est partagée par les enquêteurs, le fait qu'elle ait pu tomber dans de mauvaises mains?
Alors, je voudrais apporter une petite précision par rapport à votre intervenante psychologue. Nous connaissons bien malheureusement ces réseaux parce que le cheminement est exact dans tout ce qui a été dit. Mais il faut savoir que une fois qu'ils ont mis la main sur ces jeunes filles, elles sont ensuite encadrées par ce que nous appelons dans notre jargon des tatas, qui sont des jeunes filles guère plus âgées qu'elles, qui sont montées en grade dans l'aspect criminel du proxénétisme. Pardon. Elles sont en général droguées, alors soit c'est du Valium pour les calmer, pour les réveiller un peu, c'est des petits gaz hilarants. Elles sont sorties de temps en temps pour aller faire des courses dans des boutiques de jeunes. Elles sont emmenées à la plage. Elles ont toujours en permanence deux choufs autour d'elles. Il faut savoir qu'ils sont montés comme des cartels de la drogue. Ils ont des voitures go fast qui vous emmènent une gamine à l'autre bout de la France sur simple demande. Et ça, je me permets de lancer un appel parce que vraiment, ça devient un problème récurrent, un problème public. Les moyens ne sont pas présents. Alors oui, nous on penche effectivement vers un réseau de prostitution, mais je veux dire, Eva peut aussi être avoir décidé de rompre avec sa famille pour mille et une raisons qui sont des raisons d'un adolescent. C'est sûr qu'on a tendance à pencher vers la prostitution, mais tant que c'est pas affirmé, tant que c'est pas clair, tant que ce n'est pas vrai, on ne peut pas se permettre de dire à une maman « votre fille se prostitue ». Moi, je ne m'engage pas à dire ça. Je pense qu'effectivement, vu son caractère, vu son profil psychologique, effectivement, c'est une jeune fille qui a énormément conscience de sa beauté. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut, je dis bien qui pourrait être dans un réseau, mais je ne l'affirme pas.
Ce qui est, pardon pour la question qui vous paraît un peu innocente, mais ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est l'ampleur d'un phénomène dont on parle extrêmement peu. l'organisation de réseaux criminels auprès de ces jeunes mineurs, un peu perdus, un peu dans l'adolescence, et récupérés par des réseaux de bandes organisées, de grandes criminalités. C'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'était aussi le sens de cette invitation aujourd'hui.
Ben oui, parce que c'est et d'ailleurs je vous remercie d'y consacrer une partie de votre émission, Monsieur Rizet, parce que j'apprécie ce que vous faites. Et c'est vrai que malheureusement les familles sont désemparées, elles font appel à des associations comme nous parce qu'il n'y a pas les réponses au niveau des pouvoirs publics. Parce que bon, chaque Noël on vous passe le clip de tu t'es vu quand t'as bu, c'est très bien, mais il serait souhaitable que les pouvoirs publics prennent en considération ces fugues qui ne sont plus des fugues, qui sont des disparitions inquiétantes. Je refuse de qualifier la disparition d'Eva comme une fugue. Cette jeune fille est tombée dans un réseau. Certainement, elle est tombée dans un réseau. Elle a certainement rencontré les mauvaises personnes. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation. Alors, c'est pas en allant dans les collèges, en leur disant « Attention, vous allez rencontrer le méchant loup au coin du bois ». Ça, c'était de notre époque. Maintenant, il faudrait un clip marquant, que des sociétés payent un clip sur des télévisions comme votre chaîne pour informer ces jeunes filles des dangers. Des dangers des réseaux sociaux. Elles ne savent pas qui se cache derrière un profil Facebook, un profil Snapchat, un profil TikTok ou un profil Instagram. Il y a une autre catégorie de disparition où maintenant les jeunes monnayent sur Instagram leurs avis de recherche. Et ils gagnent de l'argent à l'insu des parents. On est pris dans un engrenage qui va à la vitesse de l'internet, de la fibre maintenant puisqu'on est en période de fibre. On n'arrive plus à suivre. Moi j'ai des équipes qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a des équipes de nuit, on a des équipes de jour. On fait à l'égard de la police ou de la gendarmerie un travail colossal, mais en même temps, combien de fois j'ai eu des policiers ou des gendarmes qui m'ont dit « Mais madame, elle en est à sa xème fugue. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On peut plus. » Donc, il faut que ce soit un sujet qui soit pris à bras le corps. Les ASE, c'est pareil. Je veux dire, on a une jeune fille qui avait été mise dans une ASE. Elle est repartie dans la foulée.
Je suis désolé. Je suis contraint de vous interrompre parce qu'on a une pause réglementaire. Vous serez la bienvenue sur BFNT pour reparler de l'ensemble de ces problématiques. Vous avez compris qu'elles nous intéressaient évidemment au premier degré. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On suivra avec Dominique dans l'affaire suivante avec le service de justice.
Et bravo pour ce que vous faites, madame.
On suivra évidemment cette enquête sur la disparition d'Eva. Merci beaucoup, pardon, de m'être permis de vous avoir interrompu. Merci beaucoup, Boris.
Merci.
On va vous libérer, on va garder Dominique, on va garder Johanna, puisque dans un instant, avec Johanna, nous allons revenir sur la mort d'Agathe Hilleret, portée disparue depuis 3 semaines. La joggeuse a été retrouvée dimanche dernier par un promeneur. Son autopsie n'a pas permis de déterminer les causes du décès. C'est dans un instant, tout de suite.
BFM Radio.
Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. Son corps a été retrouvé dimanche dernier par un promeneur au sud de Vivonne, mais on ignore toujours ce qui a causé la mort d'Agathe Hilleret. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes du décès de la joggeuse. De nouvelles expertises sont en cours et le travail d'enquête se poursuit, notamment autour de la téléphonie. Elisa Trana.
C'est un promeneur qui a retrouvé le corps d'Agathe Hilleret dimanche dernier dans un sous-bois au sud de Vivonne, où habitent ses parents. Plus de 3 semaines après sa disparition, dans une zone qui n'avait pas été couverte par les recherches de la gendarmerie.
Cette découverte permet d'avoir une scène, ce qu'on appelle une scène de crime, en tout cas un endroit où on va pouvoir faire des investigations.
L'étude des insectes, des œufs, des larves sur la scène de découverte permettra de savoir si le cadavre s'est dégradé sur place ou s'il a été déplacé. La première autopsie du corps n'a pas permis d'expliquer la cause de la mort de la jeune femme. Mais des analyses plus poussées, des os, des organes notamment, devraient révéler si la victime a ingéré une substance, subi une agression ou succombé à un problème de santé, elle qui souffrait d'anorexie.
Il va falloir faire des analyses toxicologiques pour savoir si cette jeune femme a consommé par exemple des médicaments. Il va falloir faire un scanner pour savoir si le corps présente des lésions graves qui n'ont pas pu être vues à la première autopsie.
Les investigations techniques se poursuivent également. On ignore si le portable d'Agathe a été retrouvé près d'elle, mais il pourrait contenir de précieuses informations. Les premières recherches s'étaient d'ailleurs concentrées dans le périmètre du dernier bornage de ce téléphone. La jeune femme de 28 ans, qui avait l'habitude de courir une vingtaine de kilomètres, partageait ses itinéraires sur une application de course à pied.
C'est l'exploitation de ses réseaux sociaux, l'exploitation de son ordinateur. C'est également le témoignage, l'audition de toutes les personnes qui la connaissent. C'est ensuite les témoins que l'on va solliciter, les témoins extérieurs à la famille, au cercle amical et qui seraient susceptibles de l'avoir vue quelque part.
De nouvelles auditions et perquisitions pourraient avoir lieu. Chaque hypothèse est étudiée par un groupe de travail dédié. L'accident, le suicide, l'acte criminel, toutes les pistes restent ouvertes.
Voilà donc pour les dernières informations. Johanna Rosenblum est toujours sur le plateau, sur lequel nous accueillons ensemble Dominique Bernard-Marc. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez l'habitude de travailler le soir. Et bonjour, pardon. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes chef de service de l'unité médico-judiciaire au Grand Hôpital de l'Est francilien. On avait beaucoup de questions, évidemment, à vous poser avec Dominique. La première, c'est ce corps retrouvé, cette autopsie, qui ne permet pas d'établir les causes du décès. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'Agathe, où on retrouve ce corps, sans doute abîmé, dans la nature? Que permet l'autopsie? Comment se déroule une autopsie?
Alors là, il y a un corps qui est un corps dégradé. Donc il va falloir que l'on associe à l'autopsie des éléments très importants, des éléments d'imagerie, si on peut en avoir. Bien évidemment, l'imagerie scanner, ce qu'on appelle la virtopsie, l'autopsie virtuelle, qui permet de regarder s'il y a un corps étranger, un élément qui a pu ne pas apparaître, ou regarder s'il y a un projectile, par exemple. Et puis, des éléments qui vont être apportés sur tous les prélèvements qui sont effectués pendant l'autopsie. Des prélèvements avisés toxicologiques, comme on le dit, donc qui vont être à la fois du contenu gastrique, qui vont être du sang, en tout cas du sang remanié, de l'urine, parce que très souvent elle reste et elle est très exploitable. Éventuellement d'autres fluides qui sont intéressants, le liquide céphalorachidien peut être prélevé. Tout ça va permettre une analyse toxicologique. Et enfin, sur les prélèvements qui sont faits, sur tout ce qui a été observé, des prélèvements très importants, comme ceux du cœur, ceux des poumons, ceux de la boîte crânienne, si le cerveau est très dégradé, il y a en tout cas la dure mère qui l'enveloppe, qui est intéressante et qui peut nous indiquer s'il y a eu un saignement ou pas.
Qu'est-ce qu'on cherche, docteur? Là, on cherche des toxiques dans ce cas-là?
On va éliminer un certain nombre d'hypothèses. La première, y a-t-il eu une intoxication de la personne? Ou était-elle sous l'effet de produits qui peuvent être des produits dopants? On imagine bien, dans la pratique sportive, quelquefois, cette utilisation. Donc, ces éléments-là qu'on va essayer de retrouver. Sur les liquides qui sont prélevés, c'est un peu plus compliqué de le faire en toxicologie dite analytique, c'est-à-dire qui analyse et qui peut les reprendre, mais on peut analyser, retrouver ces produits, les doser, comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Il y a d'autres éléments, hein, est-ce que cette personne était habituée à prendre des toxiques? Eh bien, ce sont ses cheveux qui vont pouvoir l'indiquer. Oui. Les cheveux vont être imprégnés de substances qui ont pu être prises et qui ont pu avoir un effet. On imagine bien, dans des cas de dopage, par exemple, c'est pour ça que cette technique a été particulièrement mise au point, notamment dans le dopage sportif depuis des années, eh bien de regarder si un sportif n'a pas utilisé des anabolisants ou un produit quelconque qui aurait pu avoir un effet. On sait qu'elle était d'une santé fragile. Donc, par exemple, dans certains produits alimentaires survitaminés, en tout cas utilisés, on peut quelquefois avoir des produits qui sont limites et qui peuvent occasionner des troubles de santé.
Et sur l'enveloppe de la dure mère dont vous parliez tout à l'heure, l'enveloppe du cerveau. On cherche quoi? On cherche des hématomes, traces de coups, par exemple?
S'il y a eu un hématome, le cerveau va être 3 semaines plus tard probablement très liquéfié, très difficile à analyser. Mais s'il y a eu un hématome, il a laissé une coloration et elle va être visible, et surtout elle va être visible au microscope. L'analyse microscopique de la dure mère va permettre de regarder s'il y a eu une infiltration et de dire il y a eu un hématome extradural, c'est-à-dire entre le crâne et cette dure mère qui enveloppe le cerveau, ou sous-dural entre cette dure mère et le cerveau lui-même.
Le corps est découvert il y a une semaine. On en parlait d'ailleurs, c'est dimanche par un promeneur. On en parlait ici au même moment, effectivement. Et dans la semaine, on apprend l'autopsie n'a pas permis de déceler et d'établir avec précision les circonstances du décès. On prend ça comme une forme d'échec d'un point de vue extérieur. Pour autant, on se dit que pour celles et ceux qui continuent de travailler, il y a des portes qui sont fermées. Il y a des hypothèses qui sont désormais complètement écartées. C'est aussi comme ça qu'il faut voir cette première communication. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a enlevé les causes les plus évidentes. Elle n'a pas été heurtée par un véhicule qui l'a renversée ou
aurait
des fractures multiples. On aurait ces éléments-là. Il n'y a pas de plaie par balle multiple avec des projectiles, etc. Et puis, on va regarder, puisqu'on a regardé macroscopiquement lors de l'autopsie à l'œil nu, et bien maintenant on va regarder microscopiquement, et sur tous les prélèvements qui sont faits, ce sont les anatomopathologistes qui vont prendre ces prélèvements, les regarder.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est un nouveau mot, j'apprends un nouveau mot, de quoi vous parlez précisément?
Lorsqu'on a un organe, et bien on va pouvoir l'analyser en le regardant extérieurement. C'est l'œil du chirurgien sur le vivant. Et puis, on va faire une biopsie.
Très bien.
Et cette biopsie, c'est l'anatomopathologiste qui va regarder l'intérieur des tissus. Eh bien, post-mortem, c'est la même chose. Le chirurgien, c'est le médecin légiste. Et l'anatomopathologiste va regarder le tissu.
Ok. Moi, j'ai une petite question. On sait qu'elle avait un trouble du comportement alimentaire. On parle d'anorexie mentale. C'est une jeune femme qui pesait 35 kilos. C'est à peu près le poids d'une jeune fille de 10 ans. Si on imagine qu'elle était en souffrance, qu'elle avait peut-être un traitement basé sur des anxiolytiques, des antidépresseurs, tout ça mêlé à une pratique de sport intensif, parce que je crois qu'elle courait plusieurs fois par semaine. Hein.
C'est quasiment tous les jours.
Est-ce qu'on peut imaginer que des problèmes cardio-respiratoires, de tension, aient fait que ça lâche à un moment donné? Et est-ce que ça peut se voir lors de vos analyses?
Oui, on va avoir ces éléments-là. On sait très bien qu'il y a des comportements d'hyperactivité chez les anorexiques, et on va avoir à la fois des problèmes cardio-pulmonaires, mais dans les problèmes cardio-pulmonaires, essentiellement des problèmes de troubles du rythme. Mmh. Et donc, sur les faisceaux cardiaques qui ont pu être prélevés, on va regarder s'il y a une anomalie, s'il y a des éléments de ce type. Et sur un tissu cardiaque, on pourrait avoir des éléments qui vont nous révéler un infarctus partiel. Là encore, microscopique. C'est au microscope qu'on va pouvoir le voir, puisque l'état du corps ne permet pas de le voir à l'œil nu.
Alors, pas de fracture, donc elle n'a pas été renversée par une voiture, pas de traces de projectile, elle a pas reçu, elle a pas été blessée par un coup de feu. Si elle a été tuée, ou si elle a reçu un coup de couteau, est-ce qu'on va, à moins que le couteau évidemment ait heurté
les
côtes et laissé une trace, mais si elle a reçu un coup de couteau, est-ce qu'on peut, trois semaines après, dans les chairs, ce qui reste des chairs, savoir que c'est ce qui s'est passé?
Alors, s'il y a une plaie profonde, oui, parce que ça a touché, pour qu'elle occasionne le décès, elle a touché un organe important. Un organe plein, par exemple, de l'abdomen, on y aurait une plaie du foie, par exemple, où elle a sectionné un gros vaisseau. Il faut bien comprendre que la peau va être très dégradée, les tissus superficiels vont être dégradés, mais pas à l'intérieur du corps. Donc, les poumons sont encore visibles, le cœur est encore tout à fait visible, un foie va l'être aussi, il est dégradé, mais s'il y a une plaie, elle va être visible, notable. Donc, tous ces éléments-là seront des éléments. Néanmoins, elle serait sortie de la première autopsie, puisqu'on aurait vu ces éléments importants. Mais des petites lésions, un coup par un poinçon qui peut être plus discret, ou des éléments de ce type, peuvent ne pas avoir été vus et seront vus sur les éléments histologiques. Là encore, c'est le microscope qui va nous aider.
On a beaucoup parlé, évidemment, sur BFM TV et dans l'affaire suivante, de la disparition et de la mort du petit Émile. Certains avaient découvert qu'il y avait évidemment ce que l'on trouvait au cours d'une autopsie. En l'occurrence, des griffures sur le crâne, un choc frontal. Et puis, il y a aussi ce que l'on découvre dans l'environnement où est découvert les insectes. On a même étudié une jardinière.
Les
restes de vêtements. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui peut permettre d'établir la vérité du déroulement des faits? Est-ce que c'est le travail qui se déroule en ce moment hors des caméras de BFM TV?
Alors, bien évidemment, lors de l'autopsie, il y a des éléments qui sont prélevés. On a prélevé les vêtements, elle était habillée, donc on a prélevé ses vêtements et ils vont être séchés, puis analysés pour regarder de l'ADN, pour regarder aussi qu'il n'y a pas sur les vêtements de plaies, des fractions. On parlait de plaies à un instant. S'il y a une plaie qui a touché le corps, elle est passée à travers les vêtements, donc les vêtements aussi vont pouvoir parler. Donc les laboratoires de police technique et scientifique travaillent. Le corps a été retrouvé à un endroit. Il y a aussi les gendarmes qui ont creusé autour pour pouvoir rechercher des pupes d'insectes pour savoir quel type d'insectes peuvent être là. Ce qu'on appelle l'entomologie médico-légale. On va rechercher ces insectes. On va les faire croître. On va éventuellement les comparer avec des larves qu'on aurait pu trouver sur le corps et donner une idée du délai. Donc tout le monde travaille sur ces éléments. L'autopsie a servi à prélever et à donner aux uns et aux autres des éléments sur lesquels les laboratoires sont en train de travailler à l'heure actuelle.
Ça peut prendre combien de temps, le résultat de ces analyses supplémentaires post-autopsie?
Alors, à chaque fois, vous avez des temps qui sont liés à la technique. Quand vous devez avoir des pupaisons à regarder sur des insectes, ben, il va falloir que la pupe croisse, puis que l'insert sorte, puis qu'il grandisse, puis qu'on l'identifie exactement. Donc, ça met le temps de l'évolution de cette espèce-là, qui est souvent en termes de semaines. Des vêtements, il va falloir qu'ils soient impeccablement séchés, puis ensuite travailler sur l'ADN, ça peut là encore prendre des semaines. Les prélèvements toxicologiques, si les prélèvements vont être abîmés, dégradés un petit peu, il va falloir les traiter avant de pouvoir les analyser. Et là encore, on est en termes de semaines. Donc on aura probablement, dans quelques semaines, des éléments beaucoup plus probants qui reposeront sur ces analyses. L'étude, par exemple, des fragments qui ont été prélevés, mais il y a obligatoirement une fixation dans le formol qui doit être de 2-3 jours au minimum, puis une préparation en paraffine, puis une analyse. Vous voyez, donc tout ça, ça prend du temps.
Docteur, vous êtes dans une enquête judiciaire à ce moment-là, quand vous pratiquez une autopsie, ce que vous faites régulièrement. Qu'est-ce qui est avec vous dans la salle d'autopsie et pourquoi faire? Comment ça se passe?
Alors, dans la salle d'autopsie, il y a les enquêteurs, parce que c'est important, mais il va y avoir surtout la police technique et scientifique. Là, dans le cas, ce sera la gendarmerie, l'officier de police judiciaire. Il va y avoir de très nombreuses photos. Il va y avoir
un juge d'instruction, un substitut, un proc.
Alors, éventuellement, il y a un magistrat. Très largement, ce sont les enquêteurs qui vont être là. Très largement, ça va être tous les techniciens de cette police technique et scientifique ou les techniciens d'identification criminelle, si c'est de la gendarmerie, pour pouvoir prendre les prélèvements, le faire de façon adéquate, les mettre sous scellé, éviter qu'il y ait des contaminations. On est à l'heure où l'ADN peut contaminer, ouais. Donc tout le monde devra être équipé correctement.
Et à chaque geste technique, les vôtres, vos gestes techniques, vous commentez?
À chaque geste technique, on va commenter et tout ça va être recueilli. Il y a aussi quelqu'un qui prend les notes, qui fait un pré-rapport déjà, des officiers de police judiciaire. Chaque geste est aussi documenté par de la photographie.
Est-ce que quand il y a intervention d'un tiers extérieur, meurtre, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, avec les moyens qui sont à votre disposition, est-ce qu'on peut échapper à l'établissement de la vérité quand il y a un meurtre? Si Agathe a été victime de quelqu'un, est-ce que ce potentiel responsable peut encore échapper à la vérité?
Alors, on a beaucoup d'éléments. La médecine légale va répondre à plusieurs questions. Elle va répondre à qui est-ce, quel est le corps, quelle est l'identification. Vous voyez, elle peut parfois être compliquée. Dans le cas du petit Émile, elle a été beaucoup plus compliquée que pour Agathe. Quand est-ce que ça s'est passé? Où a eu lieu ce décès? Le corps a-t-il été déplacé ou pas? Ce sont des éléments. Comment? Quelle est la nature du décès? Et puis, si le décès est criminel, eh bien, il y a le travail des enquêteurs. Parce que si nous, on peut vous dire le décès a été occasionné par un tir d'arme à feu ou par une plaie par arme blanche, qui tenait l'arme? Eh bien, c'est l'ADN qui va le dire et c'est l'enquête qui va le dire.
Et ce corps assassiné, meurtri, il faut le remettre à la famille ensuite.
C'est ça, j'écoute, c'est vrai que c'est passionnant d'entendre le travail de la médecine légale, c'est vraiment un travail ultra précis qui se fait souvent dans l'ombre. Et dites-vous que derrière, il y a effectivement des parents, comme vous dites Dominique, qui entendent tout ça, qui peinent du coup à commencer une étape de deuil. C'est vrai que la découverte du corps, c'est le début d'un nouveau travail pour les parents qui sortent d'une phase d'espoir possible à une phase de réalité. Mais pour pouvoir entamer un deuil, il faut aussi parfois pouvoir se recueillir et se recueillir sur un corps en paix. Et pour l'instant, la science, la police, les médecins doivent travailler. Donc, c'est une famille qui est aussi meurtrie et qui continue de souffrir, d'apprendre ou d'attendre, d'apprendre tout ce que le corps a révélé encore. Donc, j'espère que cette famille est bien accompagnée.
Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau de l'affaire suivante. On suivra évidemment les résultats de ces analyses supplémentaires. Merci beaucoup. On va passer, Dominique, ensemble. Et nous allons accueillir l'invité de la semaine. Une question à laquelle l'invité de la semaine va tenter de répondre. L'affaire Pellicot aurait-elle pu être évitée? C'est-à-dire dans ce livre choc, Fétiche 45, les autres vies de Dominique Pellicot, Laurent Valdiguier, que l'on a aperçu, met au jour une série de dysfonctionnements judiciaires qui prouvent que le calvaire de Gisèle Pellicot aurait dû être évité. Bonjour Laurent Valdiguier.
Bonjour Ronald.
Je ne vous présente pas Dominique Rizet.
Bonjour Laurent.
Dominique, je ne vous présente pas Laurent Valdiguier. Très sérieusement, c'est édifiant. Parce que ce livre choc, cette enquête, je ne sais pas comment vous la qualifiez, mais c'est totalement édifiant et ça se résume juste avec un constat. Dominique Pellicot aurait dû, je le disais, être arrêté en novembre 2010. Pourquoi et comment?
Ah oui, il aurait dû. C'est-à-dire, il y a une identification au FNAEG. Le FNAEG, c'est le fichier national des empreintes génétiques, hein, que Dominique connaît bien, qui a été créé après l'affaire Guy Georges pour justement essayer d'arrêter des gens. Hein. Le 9 novembre 2010, ben, le FNAEG identifie l'ADN de Dominique Pédicaud, qui vient d'être arrêté dans un supermarché de Seine-et-Marne, comme étant l'auteur d'une tentative de viol avec arme assez violente, hein, même voire très violente. Hein. Marion, elle sent, elle croit mourir, elle s'en échappe par miracle parce qu'il y a un petit cagibi dans la pièce où elle est agressée, et elle peut s'enfermer. Il est identifié. Le FNAEG envoie un papier d'identification au tribunal de Meaux, et puis là, plus rien.
C'est comme l'affaire Guy Georges. On a de l'ADN, on a des choses, on les exploite pas. Vous dites, vous écrivez, les ministères de l'Intérieur ont une les ministères de l'Intérieur ont une responsabilité écrasante dans le raté du virage Internet par la police. On y est, on est là-dedans, on n'est pas là-dedans. On est dans le FNAEG ou on n'est pas dans le FNAEG?
On est là-dedans dans la mesure où Gérald Darmanin, quand il est devenu ministre de l'Intérieur, il venait du budget. Et c'est vrai qu'au budget
intérieur justice.
Ouais, voilà. Au budget, le budget, c'est une grande machinerie. Il y a un contrôle fiscal sur deux qui est déclenché par la machine aujourd'hui, par l'intelligence artificielle depuis longtemps. Et c'est vrai que côté police, il y a la brigade criminelle. Cette affaire, c'est 30 ans. Là, je me suis plongé dans 30 ans d'enquête, tout azimut, pouvant arriver à Pellicot.
Je vous interromps, mais quelle enquête? Quel boulot? Vraiment, quel boulot?
Et la brigade criminelle, elle a fait un travail de titan. Mais on dirait, elle a soupçonné des dizaines de personnes. Il y a un travail de... C'est vrai que quand on se plonge dans leur enquête, c'est fabuleux à quel point ils enquêtent. Mais il y a une espèce de déperdition d'énergie folle, puisqu'ils passent à côté de choses. Il y a une autre petite fille qui se fait agresser en 95 à l'éther. On a l'impression que des choses évidentes leur passent à côté.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette arrestation qui n'a pas eu lieu, ça aurait pu empêcher d'autres choses extrêmement graves également. Ça aurait eu quoi comme conséquence précisément? Comment on peut les décrire?
C'est vrai que 2010, c'est un tournant. Puisque l'affaire la décennie des viols de Mazan qu'on connaît, qu'on a tous en tête, elle commence en 2011. Et c'est un peu comme, parce que Dominique Pédicaud, lui, pour le coup, il sait qu'il a donné son ADN en 2010. Il le sait. Il a été arrêté dans un supermarché, il donne son ADN. Il sait. Lui, d'ailleurs, il est le seul à savoir tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai qu'à partir de 2010, lui sait que si son ADN est pris sur une scène de crime éventuelle, hein, ou sur...
Il est mort.
Il est mort. Alors, est-ce que ça explique qu'il est transformé, il soit... C'est vrai qu'à partir de 2010, il est passé au viol à domicile. Hein, c'est le viol à domicile, Gisèle.
Où il ne risque absolument rien.
Où il ne risque rien.
Ce sont d'autres qui viennent.
Voilà, où il ne risque rien. Donc, c'est vrai que les vies de Dominique Pédicaud avant les viols de Mazan, ce sont des vies de mensonges et de manipulation.
Alors, il a parlé à l'audience, hein, pendant tous ces mois d'audience. Vous avez suivi le procès, on l'a suivi sur BFM TV. Il a quand même raconté beaucoup de choses.
Il a raconté.
Il avoue le viol de sa petite fille devant son fils qui vient à l'audience. Est-ce que c'est par provocation ou... Il parle beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'un jour il parlera des meurtres dont on le soupçonne? Est-ce qu'un jour il se mettra à table comme il l'a fait?
Non. Je pense qu'ils avouent jamais. Là d'ailleurs, il était arrêté dans le cadre de l'affaire d'Avignon, et la brigade criminelle avait fait le boulot des Polters, de Carpentras. Ils viennent l'interroger. Il sait pas pourquoi ils viennent.
Ouais.
C'est toujours ces procès-verbaux quand on les lit. Hein, c'est toujours c'est poignant parce que lui, il nie tout. Il nie tout farouchement tout le temps.
C'est ce style de personne qui n'avoue que quand les preuves sont totalement irréfutables.
Ah voilà, alors là, il y a putain d'un coup, le policier lui montre l'ADN. Alors, il reconnaît... Par exemple, il y a une histoire de cutter dans cette histoire de Marion. C'est un détail. Marion, elle dit qu'elle a... D'ailleurs, il y a une trace de sang, ça a bien été provoqué par quelque chose. Lui, il dit qu'il s'est coupé un peu une peau autour d'un ongle. Mais il y a bien une histoire de cutter. Marion, elle se souvient d'un cutter. Lui, il dit que c'est des clés de voiture. Elle a confondu. Alors c'est vrai que ça a l'air de rien, c'est un petit détail, mais les clés de voiture, ça veut dire c'est pas viol avec arme. Alors c'est des choses comme ça qui font que...
Dans votre bouquin, Laurent, tout est dans le détail, parce que vous dites à un moment, Pellicot, on a failli passer à côté. Hein, et vous rendez hommage à deux personnages, on n'en a pas parlé assez. Le vigile, du Leclerc, oui, du magasin Leclerc de Carpentras. En lisant le bouquin avec Ronald, on se disait quand même, et ce Laurent Perret, alors je ne sais pas s'il écoute l'émission, mais ou si quelqu'un qui le connaît écoute l'émission, appelez-le vite pour lui dire quand même combien il est formidable. Laurent Perret, gardien de la paix au commissariat de Carpentras, racontez-nous là ce qui se passe.
Je ne sais pas s'il l'a été, mais Laurent Perret, il mériterait la Légion d'honneur. C'est l'honneur de la police française.
Bravo.
Laurent Perret. Parce que Laurent Perret, lui, il arrive.
Raconte-nous le
il voit arriver ce vieux monsieur, parce qu'il a, enfin, il a 50 ans, il a 60 et quelques. Il fait.
Merci pour moi.
Il fait le vieux monsieur. J'ai eu une pulsion, ma femme n'était pas là. Il s'excuse, il comprend Pellico, parce que ça lui est déjà arrivé 10 ans plus tôt, rendez-vous compte. Ouais. Exactement la même chose. Et il fait celui qui...
Qu'est-ce qu'il a fait quand il vient d'arriver au commissariat?
Et il arrive au commissariat, et Laurent Perret, il a le réflexe de voir dans son téléphone. Et il a le réflexe d'aller en perquisition chez lui.
On l'amène au commissariat parce qu'il filmait...
Parce qu'il filmait sous les jupes des femmes. Alors c'est vrai qu'il y a un premier vigile, hein, le vigile du commissariat, du Leclerc, qui dit il faut l'arrêter, appeler la police tout de suite.
Il portait plainte.
Il y a 3 femmes qui déposent plainte. Et là, Laurent Perret, il comprend que il faut creuser. Et puis il faut surtout pas écouter ce qu'il dit. D'ailleurs, quand il a été arrêté en 2010, ça a été qualifié dans les fichiers informatiques de la police, violence avec arme. D'ailleurs, c'est une première question que le pose Laurent Perret à Dominique Pellico. Qu'est-ce que c'est cette infraction de violence avec arme que vous avez eue en 2010? Dominique Pellico, il dit,
rien du tout.
Je m'en souviens pas du tout. Et il continue de dire, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas ce qui m'a pris, ma femme était en vacances. Il essaye de faire en sorte que ça se passe comme la première fois, hein, par 100 euros d'amende, pas de garde à vue, que sa femme soit pas au courant, et puis que tout continue.
Sauf qu'il est tombé sur Laurent Perret. Le téléphone, l'ordinateur, on va chez vous, il saisit tout le matériel et l'affaire Pellico démarre.
Alors l'affaire Pellico démarre à moitié parce que Laurent Perret, il demande à Dominique Pellico de revenir et il lui demande simplement une question. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Il sait là qu'il a déjà des trucs bizarres sur son téléphone. Réponse de Dominique Pellico, jamais.
Premier mensonge.
Et il lui demande le numéro de sa femme, parce qu'il a compris qu'il se passait quelque chose avec sa femme.
Le rôle de Nathalie Turquet, puisque vous parlez de femme, c'est aussi essentiel.
Nathalie Turquet, c'est quelqu'un... Oui, Ronald, c'est la juge d'instruction du Paul Colquais. Elle va partir, apparemment. Ça aussi, c'est quelque chose... Une espèce, comme s'il y avait une espèce de malédiction sur les affaires Pellico. Parce que Nathalie Turquet, elle a, à force de patience, elle a démasqué le grêlé.
Et puis
après avoir démasqué le grêlé, elle dit aux policiers, elle a une très vieille enquête, hein, c'est l'enquête de Sophie Narbe en 1991, viol et meurtre, pareil qu'en 1999,
une agent immobilière,
ligotée dans le dos, violée, droguée à l'éther. Et elle dit aux policiers de la brigade criminelle, intéressez-vous à cette histoire de 99, qui m'a l'air en tout point similaire, passez-la au fichier. Et puis là, ils sont les premiers, c'est un policier de la brigade criminelle qui tape le nom au fichier et qui se rend compte, on est exactement en janvier, le 12 janvier 2022, le policier se rend compte que Dominique Pellico avait été identifié 12 ans auparavant et qu'il s'était rien passé. Alors, il appelle Nathalie Turquet. Nathalie Turquet, elle fait un papier, il faut se pincer quand on tombe dessus, tellement il y a tout dans cette lettre. Elle met en gros « très urgent ». Elle met en gras article 40. C'est l'article 40, c'est quand on avertit un fonctionnaire qu'il faut. Et elle écrit au procureur de Meaux. Elle dénonce un fait au procureur de Meaux. Et elle dit au procureur de Meaux, je découvre ce jour que dans une enquête sur tentative de viol dans votre parquet est saisie en 99, l'auteur est identifié depuis 12 ans et qu'il ne semble s'être rien passé.
Vous avez contacté le garde des Sceaux. Alors, ce sera la dernière question. Qu'est-ce qui vous a répondu et qu'est-ce qui va être mis en place pour éviter que ça ne se reproduise?
Alors, j'ai d'abord contacté celui dont on parle, le procureur de Meaux. Alors, c'était pas lui à l'époque. Il est tombé des nues. Il m'a dit, voyez avec mon prédécesseur. J'ai appelé le prédécesseur. J'ai demandé au prédécesseur, est-ce que quand vous avez reçu tout ça, vous avez fait une enquête? Elle m'a dit, c'était pas mon pouvoir de faire une enquête. C'est le garde des Sceaux. Alors là, j'ai fait une longue, tout ça, et là, c'est la fin du livre. Ouais. J'ai fait une longue mail récapitulatif de tous les dysfonctionnements judiciaires, hein, les scellés perdus, l'absence de coordination, et puis cette histoire d'erreur du fichier, un long mail à Gérald Darmanin, qui m'a dit au début, qui m'a fait dire « Vous êtes sûr de tout ça ?» Alors, il s'est un peu renseigné. Il a rappelé le procureur de Meaux qui entre-temps a fait son enquête. Effectivement, tout ça était factuel. Et donc, il a lancé une inspection. L'inspection des services judiciaires qui va essayer de voir ce qui s'est passé pour apporter des réponses.
Ce qui ne s'est pas passé.
Ou ce qui ne s'est pas passé. Et puis des réponses à Marion, parce que Marion, sans ce dysfonctionnement, elle aurait eu un procès, et puis peut-être son affaire ne serait pas prescrite, sans parler de Gisèle Pellicot. La décennie des viols sur Gisèle Pellicot aurait dû être évitée.
Merci beaucoup, Laurent Valdiguier. On se retrouvera bientôt sur le plateau.
Merci, Laurent.
Quand Dominique vous laissera la place. Avec plaisir. Merci.
C'est bientôt.
Dans 15 jours.
Ah, c'est bientôt.
J'ai laissé la place de façon.
Ma place hebdomadaire.
Mais oui, c'est ce que je voulais dire.
Ma place hebdomadaire, c'est dans 15
jours. N'allons pas déclencher une nouvelle rue.
J'aime bien que tu t'installes ici.
Merci beaucoup, Laurent.
Ça me fait plaisir que ce soit toi.
Et là, Dominique, on se retrouve la semaine prochaine.
Et ça me fait plaisir que ce soit toi aussi.
Plaisir aussi. Très bonne journée à tous. Et n'oubliez pas de
dire ce que tu veux. Merci à Marion, Régis.
Marion Bordier également.
Et notre équipe.
Merci à tous.